Une nouvelle tomate violette. Je suis en train de la regarder, Isabelle, et je me disais à quoi ça goûte. Et Mathieu dit à l'aubergine. Et est-ce que c'est un fruit, une fleur, un légume? Allez-y.
Ben, la tomate, c'est un fruit, évidemment, mais
Oui, oui.
qu'on mange comme un légume.
Mais
Oui,
on fait
encore
des
une autre
blagues parce
écosse.
que ça s'appelle tomate violette. Puis il y a plusieurs
Oui.
personnes qui pensent encore qu'une tomate, c'est un légume.
Oui, qu'est-ce que vous voulez?
Bon, j'arrête de vous couper la
Mais
parole.
non, c'est correct. On est là pour ça, pour discuter. Et puis, c'est ça suscite la discussion sur les OGM. C'est pas une discussion qui était éteinte du tout, là, mais disons que ça la ranime un peu, cette apparition d'une tomate. Là, au moment où l'article a été écrit le 28 avril, on disait il y a 2 semaines. Donc, c'est quand même tout récent. Et c'est un article de Karine Monat que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada qui est inspiré par la chronique La Semaine verte. Donc, La Semaine verte, qui est une émission de Radio-Canada, mais qui a une chronique à l'émission Midi Info
Alex
avec Alex
Castonguay, ouais.
Castonguay.
Ben
Voilà,
pas
donc le
Alex, Alec,
28,
ouais.
Alec, oui, voilà. Et le 28 avril, si vous allez voir, là, vous pouvez trouver la chronique si vous préférez l'écouter dans son entièreté. Mais donc, c'est ça, on nous parle de cette tomate génétiquement modifiée. Elle est violette jusque dans sa chair et cette couleur est due à l'introduction dans son ADN de 2 gènes de mufliers, cette fleur qu'on appelle aussi gueule de loup. Et donc, ça augmente la quantité
Oh.
d'anthocyanine. Et l'anthocyanine, c'est un antioxydant qui est responsable des couleurs violettes et bleues dans de nombreux fruits et fleurs et légumes. Puisque vous avez mentionné les aubergines, mais les aubergines en contiennent le chou rouge, mais aussi les bleuets et d'autres tomates. En fait, les tomates contiennent déjà, c'est juste que là, on en a ajouté davantage. Derrière le pouvoir antioxydant donc de ces tomates qui est mis de l'avant par l'entreprise américaine en biotechnologie Norfolk Healthy Produce, ben c'est un avantage majeur pour l'industrie qui se dessine, puisque en plus d'avoir plus d'antioxydants, elle a une durée de conservation 2 fois plus longue que les tomates rouges ordinaires. Donc
Ah
ça,
oui,
on
deux
voit
fois.
clairement, oui, on voit clairement que c'est ce qui est le plus intéressant pour l'industrie. Bon, évidemment, là, le Nathan Pomplin, qui est le PDG de Norfolk Healthy Produce, il présente ça comme un moyen de contrer le gaspillage alimentaire. Et c'est vrai, effectivement, mais c'est aussi plus rentable d'acheter une tomate qu'on va pouvoir garder sur nos tablettes plus longtemps avant qu'elle soit moins belle. En fait, c'est que l'augmentation d'anthocyanine allonge la durée de vie en retardant le mûrissement des tomates après leur récolte, mais aussi en diminuant leur sensibilité à la moisissure grise. Et apparemment, tout ça sans avoir d'impact sur leur goût, qui apparemment ne s'éloigne pas de celui des autres tomates.
Faudrait goûter pour le confirmer.
Ben ouais, voilà. J'ai pas pu la mettre la main dessus parce que pour l'instant, elle a été vendue brièvement au Québec dans un magasin Métro des Laurentides, apparemment, mais ils s'en sont rendus compte. Apparemment que Métro a une politique contre la vente de l'aliment génétiquement modifié. Bref, pour l'instant, c'est en Ontario et je pense en Colombie-Britannique aussi. Elle a été autorisée pour utilisation alimentaire par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, en août 2025. Elle est cultivée en Ontario, dans les serres de Redson Farms, depuis le début de 2026. Et donc, maintenant, elle est vendue par Loblaws, si jamais ça vous
Faut
intéresse
aller
de
en
mettre la main
Ontario.
dessus. C'est donc Redson Farms qui produit et commercialise cette tomate violette aux États-Unis depuis 3 ans. Le vice-président des ventes et du développement commercial, voyons, chez Redson Farms, qui s'appelle Harold Paivarinta, il indique que les ventes augmentent chaque année. Chez Santé Canada, on précise que les anthocyanes, pardon, qui sont présentes dans la tomate violette, sont présentes, pardon, dans des quantités similaires à celles trouvées dans d'autres aliments couramment consommés, comme les mûres, les myrtilles, les cerises, les raisins rouges, les aubergines, etc., mais y compris d'autres variétés de tomates. Donc, apparemment, il y aurait déjà des tomates qui auraient des quantités similaires d'anthocyanine. Pour Frédéric Thériault, qui est agronome, agriculteur et vice-président du réseau des fermiers et fermières de famille, c'est inutile d'ajouter des anthocyanines dans une tomate parce qu'il y en a dans plein d'autres aliments et parfois même plus. Il nous donne en exemple encore une fois la fameuse aubergine, qui en contient 3 fois plus que la tomate violette, et aussi le chou rouge et certains raisins noirs. Et bien sûr, il y a les bleuets qui sont connus pour leurs propriétés antioxydantes et qui en contiennent plus. Mais De son côté, Nathan Pomplin, qui commercialise la tomate, dit « Les gens mangent de 10 à 20 fois plus de tomates chaque année que de bleuets. » Donc, c'est une très bonne occasion d'intégrer la tomate violette dans notre alimentation. On ne peut pas être contre la bonne santé, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Mais, Frédéric Thériault rétorque, il y a plein de tomates. Il y a déjà plein de tomates mauves qui sont pleines d'antioxydants, des semences du patrimoine qui sont facilement disponibles sur le marché.
Ils s'entendent pas, ces deux-là, hein?
Non, c'est ça. Il y a la variété Indigo Rose, donc si ça vous intéresse. Et ça coûte pas 20 $ pour 10 semences.
Ouais. Parce
que vous allez voir plus loin, on peut aussi se procurer les semences de cette tomate OGM.
À prix élevé, on dirait.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça représente la tendance OGM actuelle qui consiste à modifier les aliments pour qu'ils soient meilleurs pour la santé avec plus d'antioxydants, plus de vitamines ou autres. Alors que la première vague d'OGM est celle qui suscitait vraiment, vraiment l'indignation. Ça avait pour vocation de faciliter les cultures. Hein. Vous savez, les fameux OGM de Monsanto, qui étaient rachetés par la suite par Bayer, qui avaient pour but de les rendre résistantes aux pesticides, ce qui, évidemment, cause l'utilisation de plus en plus de pesticides, et ça, c'est très, très nocif pour la santé. À mon avis, c'est ce qui a suscité la grande résistance aux OGM.
On peut comprendre.
Exactement. Il faut savoir que le seul autre fruit génétiquement modifié qui est disponible sur les tablettes au Canada, apparemment, c'est l'ananas Pink Glow. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est de la compagnie américaine Fresh Del Monte. Donc, c'est un ananas rose, comme son nom l'indique. Et sa chair rose résulte de l'ajout d'un caroténoïde, cette fois-ci le lycopène, qui est aussi un antioxydant. C'est celui qui donne au melon d'eau, à la papaye et à la tomate leur teinte rosée. Donc, le monsieur Paivarinta de Red Sun Farms, qui commercialise et qui fait pousser cette tomate-là, dit « En tant que Nord-Américain, on doit revoir notre rapport à l'alimentation » et nous tourner vers la science pour améliorer notre nutrition, plutôt que de nous contenter de créer des médicaments pour traiter les maladies liées à l'alimentation, comme l'obésité, le diabète, la malnutrition. Évidemment, c'est vrai que c'est mieux de prévenir que de guérir. C'est pas sûr que ça soit une panacée, mais c'est quand même une bonne intention, on va dire. Mais évidemment, encore une fois, Frédéric Thériault, lui, ce qui l'inquiète, c'est que ces nouveaux OGM cachent la presque totalité des OGM qui sont en réalité le soya, le maïs, le canola, le coton, conçus pour des raisons économiques. Donc, en fait, la peur de gens comme Frédéric Thériault, c'est que ces bons OGM, entre guillemets, nous fassent accepter indirectement les mauvais OGM.
Ouais.
Je suis pas sûre que ça soit une super bonne raison. Il y a peur qu'on s'habitue aux OGM parce qu'on les accepte pour des bonnes raisons, puis qu'après ça, on arrête de se défendre contre les OGM qui sont créés pour des mauvaises raisons. C'est peut-être pas... Il n'y a peut-être pas tort, mais bon, ça reste à prouver.
Mais ça fait réfléchir, en tout cas. Je trouve que c'est oui. Matière à discussion là, et à débat. Bien, il y en a déjà un dans l'article que vous lisez.
Oui, non, c'est ça. Puis évidemment, ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas au Québec et au Canada d'étiquetage obligatoire des OGM. C'est le cas en Europe, c'est le cas maintenant aux États-Unis, apparemment. Mais ici, on est encore en retard à ce niveau-là. Et donc, d'une part, les producteurs biologiques doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'OGM pour avoir la certification, mais d'autre part, tous les autres producteurs n'ont pas du tout l'obligation de l'indiquer sur leurs produits. Et ça, c'est pas très équitable, encore une fois, aux yeux de Frédéric Thériault. Mais d'un autre côté, comme lui, il représente des producteurs biologiques, mais pour eux, ça peut être un avantage parce que ce qui l'indigne plus, c'est qu'on ne soit pas obligé de l'indiquer parce que
Mais il faut informer le consommateur de ce qui s'apprête à acheter et à manger.
C'est ça. Mais le fait que ça ne soit pas indiqué, bien, ça fait en sorte que seuls les aliments biologiques sont certifiés sans OGM. Donc, pour le moment, le seul moyen d'être sûr de ne pas en avoir, c'est d'acheter biologique. Donc, ça peut être indirectement positif pour les producteurs biologiques.
Oui, prêche pour sa paroisse, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que le débat n'est pas prêt de s'éteindre. On est quand même en retard sur l'Europe, hein, parce qu'en Europe, l'étiquetage des OGM, petit quiz, là, c'est depuis quelle année vous pensez que c'est obligatoire?
Oh.
On est en 2026, là.
Ouais. Pourriez-vous répéter la question?
En Europe, l'étiquetage des OGM est obligatoire depuis quelle année?
Bon, j'imagine que c'est assez surprenant comme réponse. C'est récent?
C'est pas récent, c'est 1997.
Ah,
Donc, ça
OK.
fait 20 ans là-bas. 30 ans.
Ben, 29 ans.
29 ans, c'est ça?
Presque 30.
Ici, ça ne l'est toujours pas. Donc, on est quand même en retard
Oui, on est
sur
en
le
retard
vote,
là-dessus,
là.
de ce point de vue-là.
Voilà. Et
Bon.
donc, mais c'est ça, on n'est pas prêt de. Ah, je vais quand même vous donner une petite note positive. Le chercheur. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y avait une autre crainte, c'était que cette tomate-là se mélange aux semences des producteurs d'autres tomates et que là, ils soient obligés de cultiver des OGM sans le savoir. Mais il y a le chercheur en biologie végétale, Daniel Kierzkowski, de l'Institut de recherche en biologie végétale ici à Montréal. Lui, il dit que les risques de contamination croisée sont très faibles. Pour plusieurs raisons. D'abord, les tomates sont autofécondes, donc le plant se pollinise lui-même. Et en plus, les plants de tomates ne survivent pas à l'hiver, du moins au Québec, donc ils vont être détruits à la fin de la saison, même s'ils s'étaient mélangés dans les champs. Et finalement, bien évidemment, si une contamination arrive, l'agriculteur va bien voir que sa tomate est violette. Il va
Oui.
savoir que c'est pas celle qu'il avait plantée.
En tout cas, Isabelle, la tomate violette, je trouve qu'elle ressemble quand elle est fermée, là, une prune noire. Et je sais pas, je suis peut-être traditionnelle, plus que crémeuse, mais j'aime bien la tomate rouge et la chair d'un ananas jaune, mais je suis quand même prête à l'expérimenter si ça me tue pas, là. Et je voulais juste vous dire, 5 secondes, je vous le dis au retour de la pause. Mais vous en allez, est-ce que vous en allez? Oui, restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Bien oui, Isabelle, je voulais pas vous laisser sur une patte là, parce que j'avais 4 secondes pour vous dire que lorsque vous avez fait votre chronique à propos des épiceries publiques, eh bien, on a eu des échos de ça. Et depuis ce temps, ben, je sais que vous avez trouvé cet article-là, je crois bien, sur le site de Radio-Canada, un texte de Philippe de Montigny, c'est bien ça? Est-ce que vous vous en souvenez?
Me semble-t-il, oui.
Oui. Bien, on en entend parler partout. Là, je sais pas si ça, bon, oui, Radio-Canada a du poids. Mais votre chronique aussi, j'en suis convaincue.
Merci. Mais en fait, moi, j'en avais entendu parler plusieurs fois avant de finir par en parler. Donc, je suis pas tellement étonnée que vous me disiez ça. C'est dans l'actualité en ce moment.
Oui, très intéressant. Alors, on y reviendra peut-être, mais sinon, je vous laisse aller, puis je vous dis à la prochaine. Merci.
Enfin, bonne
Bye.
journée.